Strasbourg pilote, arts et lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Madame Biraud, bonjour.
Bonjour.
Alors, j'ai vraiment le plaisir et l'honneur de vous avoir pour une interview dans mon émission Strasbourg Pilote Arts et Lettres à Radio Judaïca Strasbourg. Et le titre de ce livre est « Mes histoires juives ». Alors, vous présentez, est-ce nécessaire? Je dirais quand même que vous êtes né à Budapest, que vous étiez éditeur et éditeur de livres d'art et écrivain, vous êtes toujours écrivain français d'origine hongroise. Vous êtes né à Budapest, vous avez fait des études de lettres et puis, comme je l'ai dit, travaillé dans l'édition d'art. Vous êtes amoureux, fou des images et des mots.
Exact.
Ça vous va tout ça ?
C'est mon portrait. Je vous remercie. Sans nous connaître, vous m'avez compris.
Mais votre livre vraiment est très bien écrit, donc il est difficile de faire fausse route avec vous. Alors aujourd'hui, nous nous voyons pour présenter votre dernier livre, Mes histoires juives. Alors déjà, revenir sur le secteur éditeur d'art, qu'est-ce que vous éditez ?
Alors, je ne suis plus éditeur d'art, j'ai 83 ans, donc je suis à la retraite, évidemment. J'ai publié des livres d'art, art sans frontières et sans distinction. Déjà, dans le domaine commercial, éditorial est petit. Aussi bien peinture, sculpture, photo, architecture, etc. J'ai fait ça pendant 41 ans, livres d'art tout court. Dans tous les domaines.
Et est-ce que vous avez encore accès à, par le biais de celui que vous avez délégué à la tête de cette maison, de ces maisons d'édition prestigieuses, est-ce que vous avez encore la main là-dessus ?
Pas du tout. La maison n'existe plus. Les éditions Adam Biraud n'existent plus depuis maintenant 15 ou 20 ans, je ne sais même plus exactement. Donc je n'ai plus aucune activité éditoriale, du tout. Je passe mon temps à toutes sortes de choses, dont l'écriture.
Alors ce livre, Mes histoires juives, expliquez-nous ce « mais ».
Alors ce titre a une histoire. D'abord, le moment là où on parle, le mot « juif » pour moi était essentiel. Je voulais affirmer, crier au monde entier que je suis juif et que je raconte l'histoire juive. J'ai passé mon enfance, ma petite enfance dans une Hongrie occupée par les Allemands. Ma famille était plus que décimée. J'assume ma judaïté. Je ne suis ni croyant ni pratiquant, mais j'assume ma judaïté. Donc voilà pourquoi juif. Ensuite, mes histoires, parce que ce sont souvent des blagues, des vices, que je reprends, mais des histoires qui font 3 lignes, que je reprends, dont je fais 10-15 pages. Donc, c'est mes histoires. Mais, comme je dis dans le livre, c'est également les vôtres. Tout ce que je souhaite, c'est que les gens les reprennent, les racontent avec leur talent, leur vécu, etc. Et alors, histoire, parce que ce sont des histoires. Ce ne sont plus des vites, ce ne sont plus des blagues, ce sont des histoires, des nouvelles, si vous voulez. Mais il faut éviter le mot nouvelle, parce qu'il paraît qu'en France, les nouvelles ne se vendent pas. Les histoires se vendent.
Voilà. Alors, vites, vous avez dit vites, c'est quoi, vites?
Les vites, alors c'est un mot yiddish, mais c'est également le même mot en hongrois. Ça vient de l'anglais wit, qui veut dire esprit, qui a donné en allemand ein vits. En yiddish, vits, et en hongrois, vits également. Donc, et au pluriel, en yiddish, c'est vits. C'est une blague. C'est tout simplement une blague.
Alors, vous avez dit qu'il n'est point besoin d'être juif pour comprendre mes histoires, ni pour en rire, les histoires juives, virgule, patrimoine de l'humanité, s'adressent à tout le monde. Alors, patrimoine de l'humanité.
Oui, parce que nous avons, nous, juifs, quelque chose que seuls peut-être les anglo-saxons, les anglais ont, c'est l'autodérision. Et donc c'est quelque chose de tout à fait particulier. Ce ne sont pas des blagues belges, des blagues corses, des blagues n'importe quoi. Ce sont des blagues typiquement juives, compréhensibles pour tout le monde. Évidemment, dans certains cas, on pourrait enlever les personnages juifs et les remplacer par n'importe qui, ça serait drôle quand même. Mais dans mon esprit, c'est cet ensemble d'une cinquantaine d'histoires représente l'esprit juif, l'autodérision, le malheur, le bonheur, tous les instants de la vie. Donc, c'est le patrimoine universel de l'humanité, compréhensible par tout le monde. Mais évidemment, c'est comme quand vous visitez Chartres, il faut quand même connaître un peu l'histoire de l'architecture médiévale, l'histoire de France. N'empêche que Chartres, c'est quand même le patrimoine universel de l'humanité.
Alors, empreinte de sagesse morale, d'humour corrosif, avec des chutes inimitables, vos histoires juives sont de vrais textes littéraires. De par l'écriture qui m'a envoûté, votre écriture, les références historiques, géographiques qu'elles contiennent, ce sont des textes littéraires. Mais ce n'est pas la blague basique, ce sont des textes littéraires. Vous êtes un écrivain de littérature.
Qu'est-ce que je vais répondre à ce compliment?
Mais ce n'est pas un compliment, c'est une constatation.
Je rougis, mais je suis seul dans ma pièce, donc personne ne me voit rougir.
On vous entend rougir.
Voilà. Mais je suis enchanté que vous me disiez ça, parce que ce que j'aime par-dessus tout, c'est écrire. Depuis que je ne suis plus éditeur, j'écris énormément pour moi. Je fais des petits billets que j'envoie à des amis. J'ai publié beaucoup de livres. Je suis en train de faire une comédie musicale juive. Je suis passionné d'écriture. Et je dirais même, si vous me permettez, je fais un pas de plus. J'ai lu une phrase de Laurence d'Arabie qui dit « Les livres ne sont pas faits pour être lus, ils sont faits pour être écrits. » Je ne vais pas aussi loin, mais je comprends ce qu'il veut dire. Le plaisir, pour moi, le plaisir de l'écriture est un plaisir physique et psychique.
Mmh. Et puis on espère avoir un lecteur. Alors là, c'est un fantasme, mais parfois c'est un éblouissement, puisque les lecteurs, vous en avez énormément. Vous êtes connus, et vos livres, notamment ce dictionnaire amoureux de l'humour juif qui est paru chez Plon en 2017. Ça aussi, c'est un monument, très épais, je crois.
Il fait 800 pages, monument. Bon, la collection est une collection monumentale. Ce sont de très bons livres et ils m'ont fait beaucoup d'honneur de s'adresser à moi pour ce livre qui m'a demandé énormément de travail parce que je connaissais bien les blagues, mais c'est tout. Et il fallait que je me jette dans la Bible, dans le Talmud, dans des textes, dans Freud, sur le mot destin, etc. Donc, bon, c'est jamais inutile d'étudier. C'est pas un juif qui le dit, c'est évident. Mais voilà, donc ça m'a fait énormément de plaisir de l'écrire. Et puis je crois qu'il plaît parce qu'il est sorti en livre de poche. Enfin bon, voilà, c'est un petit succès.
Ben, félicitations. Alors, vous avez écrit ce livre, le dictionnaire amoureux de l'humour juif. Qu'est-ce que l'humour juif? On vous l'a posé mille et une fois, mais moi, c'est la première fois aujourd'hui.
Oui, effectivement. Alors, l'humour juif, d'abord, c'est un reflet parfait du judaïsme. Il est question de tout ce qui concerne la vie, la naissance, l'amour, la haine, la mort, Dieu... les gouvernants, les empereurs, les hommes, les femmes, c'est une image, l'humour typiquement juif, c'est l'image de la vie juive. Il s'agit de la vérité que seul Dieu détient, il s'agit de notre rapport à la vie, tout simplement. Donc, c'est quelque chose de très... Et comme nous sommes quand même ici depuis, disons, 5000 ans, peu importe, plus que depuis, il n'y a plus de Hittites, il n'y a plus de Huns, il y a des Juifs. Et il y aura toujours, il y a quelque chose de miraculeux. Donc, cet humour représente parfaitement le judaïsme, parfaitement. D'ailleurs, si vous regardez le Talmud, il est plein de blagues. Il y a des rabbins qui disent qu'il faut commencer un cours dans les yeshivot par une histoire. C'est extraordinaire.
Mmh. Et alors, c'est vos histoires juives, cela se passe souvent dans un temps mauvais, celui où l'on craint pour sa famille, son travail, ses biens, sa vie. Cela pouvait bien être en 1889, en 1920, 1926, au Moyen-Âge, en 1944, et peut-être aussi en 2024.
Peut-être aussi qu'à Dieu ne plaise.
Qu'à Dieu ne plaise.
Ça peut être en 2024. Mmh. Les temps sont mauvais. Mmh. Mais les temps, vous savez, les temps pour les Juifs ont toujours été mauvais. Et nous sommes quand même là. Rien que dans ma vie, qui n'est pas tellement courte, j'ai 83 ans, je finis en 41 en Hongrie. Naître un enfant juif en 41 était condamné à mort. Mm-hmm. C'est évident, déporté. Ben oui, je suis là. Donc les temps étaient mauvais. Après, Staline est venu, les temps n'étaient pas meilleurs, etc., etc. Et maintenant, alors on avait un moment de répit, et puis là, maintenant, on ne sait pas. Israël nous fait craindre le pire. Les temps sont mauvais. Quand vous regardez, il y a l'affaire Dreyfus, après un petit calme. Après, on a droit à la Shoah. Après, etc., etc. Oui, les temps sont mauvais, mais il faut avoir, il faut être confiant, il faut s'accrocher au bonheur.
Alors, le rire juif, vous avez dit qu'on en trouve déjà des amorces dans la Bible, le Talmud. Ces histoires se créent en Europe de l'Est, dans le sentier parisien et aussi dans le Lower East End à New York.
Absolument.
Donc, c'est l'espace et le temps. Hein. C'est le temps. On est remonté jusqu'en l'époque romaine et puis
au-delà.
Au-delà aussi.
Mais, écoutez, la Bible commence par un rire. C'est quand même extraordinaire. Ça, j'ai découvert par hasard. Quand le premier juif, Abraham, quand Dieu s'adresse à lui en disant « Tu auras un fils », Abraham a 100 ans. Sarah, sa femme, a 90 ans. Qu'est-ce qu'il fait, Abraham ? Il rit. C'est formidable. Et Sarah, à son tour, qui écoute, rit aussi. Alors, j'ai vu une traduction de la Bible protestante qui dit « Il sourit ». Parce que c'est plus élégant, on ne rit pas. Mais j'ai demandé à un ami israélien érudit, j'ai dit, lis-moi s'il te plaît exactement ce que dit la Bible. Il me dit, la Bible dit, Abraham rit. Vous vous rendez compte, le premier juif, le début de la Bible, il rit. Et comment il appelle son fils ? Yitzhak. Yitzhak, ça veut dire, il rira. Allez, m'expliquer ça.
Au futur. Mais c'est vraiment une belle promesse qu'on nous fait.
Yitzhak rira. Alors, est-ce que nous avons ri ? Oui, nous n'avons pas toujours ri.
Riz jaune, par l'étoile peut-être.
Voilà, vous et moi, nous rions.
Alors, les Juifs parlent beaucoup, posent des questions, ergotent sur des énonciations, le dialogue, le temps du dialogue. Et d'ailleurs, ça se voit dans les œuvres d'art, par exemple, le retour de la synagogue de Chagall où deux Juifs, au retour de la synagogue, bavardent, parlent, disent des bêtises, disent des choses intelligentes, disent leur misère, disent... Ça parle. Donc, vous avez plusieurs personnages, notamment Grune et Cohn, qui, eux, parlent. Mais de ces personnages, on en trouve aussi ailleurs, comme par exemple Dominique chez les Corses, comme par exemple Laurel et Hardy, comme par exemple d'autres que vous citez, parce que c'est là l'érudition, l'intelligence et la culture de votre texte, ça nous emmène partout. J'ai même rencontré Montaigne.
Effectivement, il y a des personnages drôles. À Lausanne, dans le canton de Vaud, en Suisse, il y a Wen-Wen. Qui est le personnage. Vous savez, c'est Nasreddin Hoxha, c'est le fou sage qui dit que des bêtises qui sont extrêmement profondes, qui sont évidemment... C'est le fou du roi qui dit toujours la vérité. Conégrune, j'ai pris ces deux personnages parce que toutes les blagues hongroises ont comme personnage Conégrune. Mais Conégrune, ils sont idiots. Ils disent des idioties, n'empêche, quelle profondeur, quelle exactitude, quelle sagesse derrière ces idioties. Dans les blagues juives, il y a toujours quelqu'un qui dit quelque chose qui est très vrai.
Mmh. Il y a une vraie pensée qui est dépassée par le désir d'en rire, parce que souvent, c'est cruel ce qu'ils vivent et ce qu'ils ont à dire. Eh bien, ils ont l'élégance de l'habiller, de le pailleter un petit peu de rire.
Voilà, ça nous sauve. Ce rire juif nous sauve. Alors, et puis, regardez, Abraham, il rit. Nous rions tout au long de... Je connais toutes sortes de juifs, évidemment. J'en connais d'idiots, de malhonnêtes, tout ce que les... Je n'en connais aucun, je pèse mes mots, qui n'ait pas le sens de l'humour.
Le sens de l'humour. Alors, vous dites qu'il y a, comme si c'était un patron que l'on dessine pour faire des répliques d'autres, sur d'autres papiers. Il y a le witz, donc le mot d'esprit, le récit de base. Il y a le witz de souche, comme si c'était un calque que l'on pouvait transformer recréer. Donc il y a le witz de base et celui dont on s'empare dans l'écriture, par l'écriture.
Mais absolument, qui peuvent s'appliquer. J'en cite quelques-uns. Je commence le début et je finis. Je commence le livre et je finis par ce qu'on appelle un vide de base. C'est celui que tout le monde connaît. Quand Kohn, pendant la guerre à Budapest, dans les pires, en 43, la pire pour qu'il puisse exister, rencontre Grün dans la rue, se penche et lui dit tout bas à l'oreille, « Dis-moi Grün, tu as entendu que au zoo d'Oslo, il y a des jumelles otaries qui sont nées.
Mm-hmm.
Et Grün réfléchit et encore plus bas, il dit, dis-moi Kohn, c'est bon pour nous ça.
Ça
tout le monde connaît cette phrase, c'est bon pour les juifs. J'ai un livre qui est apparu chez Chicago University Press en Amérique. Ils ont trouvé comme titre, sans m'en parler, It is good for the Jews. Voilà, c'est un vice de base.
Alors, vous dites, mon style et mon esprit vont vagabondant de même. Ça, c'est une citation de Montaigne, Michel Ekem de Montaigne, dont la mère était Marane.
Marane, absolument.
Voilà, elle était issue d'une famille de riches commerçants juifs espagnols, converti au protestantisme, aimé Michel Ekem de Montaigne est catholique comme son père.
Oui, mais jamais, jamais il ne dit un mauvais mot, un mot contre les juifs, jamais. Mmh. Vous pouvez lire les versets d'un bout à l'autre. Est-ce que parce que c'était un très grand humaniste, est-ce que parce qu'il se souvenait de ses racines, j'en sais rien, en tout cas. Pas un mot, contrairement à Voltaire, il y a plein d'autres qui se répandent dans l'antisémitisme. Montaigne, jamais.
Jamais.
C'est un de mes deux piliers dans la vie, Montaigne et Camus. Je m'accroche à ces deux.
Mmh. Alors, Montaigne, lui, j'ai lu quelques études sur son maranisme. On dit qu'il croit en un Dieu unique. Il ne croit pas en la Trinité, et donc déjà, un Dieu unique, c'est un lien envers le Dieu juif, quand même.
Bien sûr, ce Dieu qui n'a même pas de nom, évidemment.
Voilà.
Si c'était un vrai catholique, il devrait croire, évidemment, à la Trinité, ce qui n'est pas son cas.
Et il y a aussi, donc, le côté nomade. Le juif, vous dites, a la valise à portée de main.
Ben oui.
Et absolument. Vous citez aussi quelque chose qui m'a vraiment charmé, c'est cette citation du rabbi Nachman de Breslev qui dit « Ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin ».
C'est absolument vrai. Et j'observe, le même rabbin a dit une phrase qui est formidable « Ne demande pas ton chemin à celui qui le connaît, tu risques de ne pas t'égarer ».
Oh là là, ça c'est grandiose. S'égarer pour un artiste, c'est vraiment la vraie route qu'il faut prendre.
Mais absolument. Et s'égarer. D'ailleurs, j'ai trouvé une phrase de Pasolini qui dit la même chose. Celui qui ne s'est pas perdu ne se connaît pas. Mm-hmm. Mais c'est toujours la même chose. Le chemin, c'est le chemin qui compte. Évidemment, le but après, bon, quand on est arrivé, quelle déception. Mm-hmm. Mais tout cet itinéraire de la vie.
Et quand on est arrivé, on a envie de repartir, ça veut dire qu'on n'est pas très convaincu aussi.
Voilà. Exact, vous avez parfaitement raison. On a envie de repartir parce que ce qui nous a intéressé, c'est marcher, c'est le chemin.
C'est le chemin.
Pas l'arrivée. Vous avez absolument raison.
Vous avez dit une fois que le Seigneur en a eu marre de l'humanité avec un grand H, comme Hitler, Himmler, et on n'ajouterait pas d'autres qui nous créeraient d'autres ennemis.
Oui, que je mets en minuscule extrait après dans tout le livre en disant il ne mérite pas le majuscule.
Alors, pour finir cette interview, qui je regrette qu'elle finisse, peut-être en ferons-nous de nouvelles, c'est à vous de décider. Donc, cette interview, on va la finir avec des histoires. Par exemple, l'histoire le marchand de lunettes. Est-ce que vous pourriez nous en parler ?
Oui, le marchand de lunettes, c'est assez... Bon, évidemment, c'est une très longue histoire, je vais la faire très très courte.
Très courte.
C'est un marchand de lunettes qui parcourt la Hongrie d'un village à l'autre pour vendre des lunettes qui sont souvent juste des verres de fenêtre, mais enfin peu importe. Il arrive chez un riche marchand, Monsieur Cohn, qui lui dit « Allez, montrez-moi vos lunettes, mais enfin, de toute façon, ce que vous m'avez vendu la dernière fois, je ne vois rien avec, vous êtes un voleur, mais bon, c'est pas grave, montez. » Alors il essaie, et puis il dit tout d'un coup « Ah, mais celles-ci sont très bien, montrez-moi. Ah, mais qui je vois devant moi? Mais un voleur ?» Et là-dessus, le marchand ne se démonte pas, il dit « Ben, écoutez, passez-les-moi. » Il les met, il regarde M. Cohn. Mais vous avez raison, mon fils, un voleur.
Alors là, celle-là, elle est... j'ai beaucoup aimé aussi celle de Varsovie avec les étals vides, à une queue immense, au petit matin, dans l'hiver, et massif qui broie le dos de Varsovie. Ces pauvres gens rêvent d'avoir un morceau de viande et qui a été annoncé. Et la queue est là. Et puis, voilà, les heures se passent. La nuit vient, le lendemain revient, etc.
Oui.
Et alors ?
Le secrétaire du parti annonce au petit matin, « Camarades, nous n'avons pas assez de viande pour des raisons stratégiques. Le parti a décidé qu'il n'y aura pas assez de viande. Donc, ceux qui ne sont pas membres du parti peuvent rentrer chez eux, quitte la queue. » Ensuite, il dit d'abord que les Juifs rentrent chez eux. D'abord, il n'y a pas assez de viande que les Juifs rentrent chez eux. Alors, les Juifs, ils en ont l'habitude, ils s'en vont sans un mot. Ensuite, il revient une heure plus tard, il dit que ceux qui sont pas membres du parti rentrent également chez eux. À la fin, il ne reste que les membres du parti, il n'y a plus un seul Juif. Il dit, camarades, aujourd'hui, il n'y aura pas de viande. Et ils s'en vont, la tête basse, il y a un qui dit, salauds Juifs, c'est toujours eux qui profitent.
C'est-à-dire que les Juifs s'étaient un petit peu mis de côté, attendant la fin de la queue, puis ils se sont pointés et ils ont eu le morceau de viande.
Et à la fin, quelqu'un vient, il dit maintenant les Juifs peuvent venir. De toute façon, il n'y a plus de viande.
Et il y en a une aussi.
C'est une double blague.
C'est une double blague et vraiment qui a rebond. La chute est là, mais elle rebondit. Et c'est vraiment,
exactement.
C'est très jouissif. Et la tartine, l'histoire de la tartine.
Ah oui, mais ça, elle est archi connue. Ça, voilà une vite de base.
Moi, je ne la connaissais pas.
Ça, c'est une vite de base. J'en ai fait 20 pages, mais enfin, on peut raconter en quelques mots. Cohn se rend compte que chaque fois qu'il étale de la graisse d'oie sur sa tartine tombe toujours sur le côté où il y a la graisse. Alors il dit, l'Éternel m'en veut, j'ai fait quelque chose, il va chez un rabbin, ensuite il va chez un deuxième, il essaie de comprendre, et puis à la fin, au bout de 5 pages, à la fin, un rabbin lui dit, mais écoute, l'Éternel ne se trompe jamais. C'est toi, imbécile, qui mets la graisse du mauvais côté.
Et il y a celle-là aussi sur l'agence de voyage.
Savez, celle qu'on devrait raconter, qui est absolument juive,
oui.
C'est la toute première, le déluge.
Oui. D'ailleurs, bien sûr. D'ailleurs, je l'ai noté, mais je ne sais pas pourquoi je n'en ai pas parlé.
J'ai commencé mon livre avec cette histoire parce qu'elle est très, très profonde.
Que vous appelez Béréchit.
Oui, voilà.
Béréchit.
Dieu décide que l'humanité est une affaire ratée. Il dit, c'est pas grave, je les supprime, j'ai assez, j'ai des coccinelles, j'ai des roses, j'ai tout ce que je veux, que j'ai créé. L'homme, c'était un ratage. Il dit à ses anges, allez dans le monde, chez les humains, et vous leur dites que dans 10 jours, il y aura le déluge. Il n'y a plus d'humanité. Alors après, je délaye, je raconte comment réagissent les Américains, comment réagissent les Russes, les Français, etc. Les Juifs se réunissent, ils délèguent à un épicier de Prague qui apparaît à la télévision et qui fait une déclaration en disant « Juifs du monde entier, il vous reste 10 jours pour apprendre à vivre sous l'eau. » Ça résume notre vie.
Ça résume notre vie.
10 jours pour apprendre, même dans n'importe quelle situation, chez Staline, chez Hitler, chez Pétain, il nous reste 10 jours pour apprendre à vivre n'importe où, même sous l'eau.
Alors, vous avez encadré votre livre de 2 histoires, la première et la dernière, et vous dites qu'elles vous racontent, qu'elles racontent toutes les autres histoires et qu'elles sont finalement le cœur, l'essence de votre livre.
Oui. Alors, la première, c'est celle que j'ai racontée quand une demande à Cohen, est-ce que c'est bon pour nous ?
Oui.
Et la deuxième, c'est effectivement la dernière, un Ashkenaz, c'est une histoire Ashkenaz, évidemment, typiquement Ashkenaz, d'Europe de l'Est, je suis un Ashkenaz. Donc un Ashkenaz se lève le matin, il a très bien dormi, il regarde par la fenêtre, il fait beau, il n'a mal nulle part, tout s'annonce bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il se recouche en attendant que ça passe.
Écoutez, Adam Biro, vraiment, c'est un livre très, très important, en ce sens qu'il est bien écrit, qu'il parle d'histoire, de géographie, de mémoire, d'humanité, et drôle, parfois un humour un peu corrosif, mais tendre, un humour toujours tendre et toujours bienveillant. Alors là, qu'est-ce que vous allez faire ? Sur quoi est-ce que vous travaillez en ce moment ?
Alors, j'ai 2 projets. Je travaille sur une comédie musicale qui va s'appeler L'enterrement de Stachek, une yiddish opérette avec un ami compositeur. Nous cherchons un théâtre, mais on a à peu près terminé. Et j'ai un 2e projet sur la gare de l'Est avec France Culture, qui devrait être un prétexte pour parler de l'opposition Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, Europe centrale, Europe de l'Ouest. Voilà, ça me suffit déjà pas mal, ça m'occupe.
Ah bah oui, et on attend ça avec grande impatience. Alors je vous remercie infiniment, monsieur Adam Biro, de nous avoir parlé avec tant d'esprit et de patience de ce dernier livre que vous venez d'écrire, « Mais... » Histoire juive, et ça paraît aux éditions Philippe Ray. Au plaisir de vous écouter une autre fois. Merci.
Merci beaucoup, madame.
Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange.